La revue de presse, Claude Askolovitch.
Bonjour.
Bonjour Claude.
On parle ce matin d'une espérance, vieille de 30 ans, mais qui travaille encore. Ceux qui en Russie se souviennent de ce moment où soudain on vivait, on respirait, la peur était abolie. On pourrait apprendre, consommer, voyager, se souvenir et raconter aussi le passé terrible. Dans le chaos, les Russes changeaient de dimension. Et entre Moscou et Nijni Novgorod, Libération nous raconte la dislocation de l'Union soviétique le 25 décembre 1991 et raconte surtout comment en trois décennies, cette Union soviétique est revenue encercler une société assommée d'indifférence qui, sous M. Poutine, comme jadis, vit sous l'emprise d'un État hanté par la menace extérieure et soutenu par les services secrets. Seulement que l'idéologie, la Russie connaît l'autoritarisme sans le marxisme-léninisme. Et Libération alors aborde un peuple dont on a cassé les repères, les médias libres harcelés, fermés, et l'association Mémorial menacée de disparaître. Elle avait été créée par des démocrates quand l'URSS agonisait pour rassembler les archives et dire la mémoire des victimes du communisme. Pourtant, dans une télévision encore vivante diffusée sur le web, une journaliste de 22 ans, Valeria Ratnikova, se sent investie d'une mission, dire la vérité aujourd'hui et réapprendre l'histoire. Elle lit des écrivains dont on ne lui a rien dit à l'école et que Staline fit tuer, Mandelstam, Babel. Elle subit pourtant l'histoire confuse de son pays. Aux élections, elle vote pour le Parti communiste, héritier de l'Union soviétique, mais qui semble aujourd'hui la seule contestation possible face à M. Poutine. Car dans le brouillard russe, certains idéalisent le passé soviétique et même vouent parfois un culte à Staline. Après tout, Staline avait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Avons-nous, demande des Russes, un autre motif de fierté? Sur le site du Monde, allez lire comment l'on se presse, tiens, au musée Staline, dans sa ville natale de Gori, en Géorgie, où l'on enseigne guère l'histoire du stalinisme. Parmi les visiteurs, un touriste français, Aurélien, maître nageur de 30 ans, qui dit ceci. Était-ce une mauvaise chose, la dictature? Ouais, ok, c'est terrible. On t'imposait un peu ce que tu devais faire, mais je vois plutôt le bon côté. Les gens avaient à manger et du boulot. Sommes-nous, pourtant libres, moins confus que d'anciens soviétiques? Sur le site du Monde encore, vous allez lire qu'en Ukraine, le président Zelensky veut contraindre les oligarques, ces milliardaires qui, dans les anciennes républiques soviétiques, ont bâti des fortunes dans la dislocation. Il proteste les oligarques contre cette appellation infamante qui peut leur nuire auprès des banques à l'étranger. Il menace d'aller en justice pour effacer le mot. Sur le site de L'Équipe, vous allez lire un article magistral, une saga qui va vous raconter à travers un homme, un oligarque justement, 8 décennies de violence et d'espérance soviétique puis russe. Roman Abramovitch, que vous connaissez comme le propriétaire du club de football de Chelsea. Quand l'URSS est tombée, il était un mécanicien de 25 ans qui, dans l'incroyable espérance et dans le chaos, les infinies possibilités du moment, devient milliardaire dans le pétrole, un financier du pouvoir et qui eut ensuite l'intelligence d'accepter les demandes de Poutine. Mais avant tout cela, son histoire avait débuté dans le fracas du Monde. Son père, Aronas, était un petit garçon de 4 ans en 1941, quand sa famille, des petits bourgeois juifs de la Lituanie que Staline venait d'annexer, furent déportés au fin fond de la Russie. Leur nom, Abramovicius, devint Abramovitch et Aronas devint Arkady. Sa mère, Irina, elle, avait 3 ans en 1941, quand avec ses parents, elle fut évacuée de Kiev juste avant que les troupes de Hitler envahissent l'URSS, prennent la ville et massacrent ses juifs. L'oligarque a été l'enfant d'un double miracle et de tant de tempêtes. Nous sommes en comparaison français. Une banalité.
On parle aussi, Claude, d'un milliardaire français.
Car on en a aussi. Tiens, Vincent Bolloré, dont la radio Europe 1, dont il est actionnaire, vient de recruter notre Jacques Vendroux. Depuis si longtemps, on voit du football ici. C'est dans le Parisien et c'est ballot, Jacques. Mais dans les échos, vous lirez surtout, c'est plus sérieux, comment le groupe Bolloré prépare la vente à un groupe suisse des concessions qu'il possède dans 42 ports africains. Le groupe aurait reçu une offre de 5,7 milliards d'euros. Ainsi, le milliardaire qui veut passer la main à ses enfants, mais ses maisons en ordre. Mais la France ne fait pas seulement des affaires en Afrique. Vous allez voir, dans la Croix l'Hebdo, encore en kiosque, des enfants maliens, tout petits, au visage rongé par des malformations. Leurs différences dans les villages leur amenaient l'ostracisme. Alors des médecins bénévoles venus de France sont venus les opérer pour les soustraire à l'effroi. Dans le journal de Saône-et-Loire, vous allez voir Mouhamadou, lui bébé sénégalais, cher au cœur d'une association Maïta. Mouhamadou souffre d'une malformation cardiaque. Il respire mal, il faut l'opérer. On a rassemblé en France plus de 2000 euros et 800 euros au Sénégal. L'opération Lige a lieu aujourd'hui. Au Sénégal encore, je le dis dans West France, une ONG espagnole organise des causeries pour dissuader les jeunes gens d'aller risquer leur vie en prenant la mer pour venir en Europe. Combien de temps peut-on rester dans l'eau froide si on sait nager? La conférencière dit aux jeunes gens diplômés mais sans espoir que oui, on peut monter des entreprises aussi au Sénégal. Heureux sont les futurs oligarques.
Et on parle enfin de générosité.
Celle des footballeurs de l'OGC Nice, dont le capitaine Dante parraine, me dit Nice Matin, la collecte de la banque alimentaire et des partenaires du club offre 500 places en tribune pour le match de mercredi contre Lens. On vit aussi de jeu. Tiens, Roman Abramovitch, l'oligarque russe, l'élu dans l'équipe, a aussi été le mécène d'une région polaire de Russie quand Vladimir Poutine demandait aux milliardaires de rendre un peu au peuple, décidément. Générosité aussi, celle des chasseurs de Seine-Maritime qui sont allés offrir 3000 repas, 1000 barquettes de civet de sanglier, sauce vin rouge au Resto du Cœur de Dieppe. Vous voyez, parfois, ça s'arrange.
Merci Claude Eskolovitch pour cette revue de presse.
France Inter.